Comment résister à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale quand on est soi-même traqué par un régime antisémite, xénophobe et raciste ?
Membres de la classe défense du lycée Pierre et Marie Curie de Menton, nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de rencontrer Herbert Traub, dont l'histoire et l'optimisme ont retenu notre attention. Nous avons donc décidé d'organiser une émission de radio afin de l'interviewer sur son parcours dans le cadre du Concours national de la Résistance, édition 2024, sur le thème « Résister à la déportation ».
Juif, né autrichien, et français non par le sang reçu, mais par le sang versé, Herbert Traub a fui l'Autriche, son pays natal, alors qu'il n'avait que 14 ans. Sous le régime de Vichy, considéré comme un indésirable, il est interné à Gurs, puis à Rivesaltes, dont il s'enfuit à 16 ans. En 1942, il s'échappe des trains de la mort et s'engage dans la Légion étrangère. Il participe au combat de la Libération et rentrera en Autriche les armes à la main.
Dans son livre « Une odyssée peu commune de Vienne à Menton », Herbert Traub revient sur ses épisodes de sa vie. De même, un film retrace son parcours. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les actions qu'il a menées pour résister à la déportation. Résister, cela peut comprendre beaucoup d'actes qui ne sont pas forcément spectaculaires ou héroïques. Dans votre livre, vous racontez avoir été interné dans le camp de Gurs, puis de Rivesaltes. Vous avez fait plusieurs rencontres, comme celle d'un groupe d'aviateurs espagnols. Comment ces Espagnols vous ont-ils aidé à survivre ?
Lorsque je suis arrivé au camp de Gurs, c'était évidemment mon premier camp d'internement, alors qu'on nous avait dit « vous allez dans un camp de séjour de réfugiés », ce qui était absolument faux, j'ai eu la chance d'être mis en contact avec un groupe d'Espagnols qui se trouve avoir été des aviateurs, mis à part par la direction, parce qu'ils étaient revenus peu de temps avant la fin de la guerre en Espagne, de Moscou. Or, des gens qui revenaient de Moscou, c'était forcément des communistes, donc ils les avaient mis dans un endroit séparé, et moi, avec un petit copain, on a été mis dans leur baraque. Ces gens-là expliquaient ce que veut dire vivre dans un camp d'internement. Comment survivre dans un camp d'internement? Comment faire pour manger correctement alors qu'on n'a pas grand-chose à manger? Enfin, de survivre dans un camp. Il y en avait parmi eux, il y en avait un qui parlait assez bien français, alors que moi, à l'époque, mon français était plutôt sibyllin, puis-je dire. Mais on est arrivé à se comprendre mutuellement. Et ces gens-là m'ont expliqué comment ils faisaient, eux, pour survivre dans un camp d'internement. Et donc, c'est ces enseignements qui m'ont permis par la suite d'être un survivant dans un camp d'internement, dans des conditions, mettons, plus ou moins acceptables.
Vous avez également rencontré votre cousin. Comment vous a-t-il aidé à survivre ?
Cela s'est passé de la façon suivante. Il y a un grand convoi, et parmi ces gens-là, il y avait des internés qui venaient d'un autre camp, du camp de Saint-Cyprien, qui était du côté de la Méditerranée, à côté de Perpignan. Et lorsque je me suis présenté devant la roulante, c'est une cuisine sur roues. Et donc, quand c'était à mon tour d'être servi, j'ai vu que la personne qui me servait était un cousin. Alors là, évidemment, d'étonnement, il y a la gamelle qui m'est tombée des mains. Lui, il y a sa louche qui lui est tombée des mains. On s'est regardé. Et puis, c'était donc une rencontre bénéfique pour moi, puisque ce gars-là, à la suite, quand il me servait de la soupe, il cherchait toujours dans le fond de la casserole où il y avait un peu de viande, un peu de légumes, sinon c'était de l'eau, la soupe. Donc, c'était la rencontre avec mon cousin, qui m'a beaucoup aidé aussi en me passant en douce des petits sachets avec un peu de graisse, avec un peu de viande cuite, que je pouvais donner à ma mère par la suite. Voilà.
Vous avez ensuite été détenu à Rivesaltes, où votre mère est décédée. C'est là que vous retrouvez votre père. Pourriez-vous nous raconter comment vous avez organisé votre évasion ?
Nous avons été transférés, quelques 60-70 personnes, du camp de Gurs au camp de Rivesaltes, qui était considéré comme un camp de regroupement familial. À Gurs, on était séparés, les hommes et les femmes, dans des îlots au sein de... Barbelé, on ne pouvait pas se rencontrer, alors qu'à Rivesaltes, dans la journée, il y avait des endroits où on pouvait se rencontrer. Ma pauvre mère, malheureusement, elle a décliné assez rapidement. Elle était malade, elle avait de la dysenterie. Plus tard, on m'avait dit que c'était probablement une infection. Donc, ma pauvre mère a été transférée dans un hôpital. J'ai pu aller la voir et le médecin m'a dit, vous savez, Madame Traube, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose pour elle. J'ai réussi à envoyer un télégramme à mon père qui était à Marseille, qui est venu et qui a pu tenir la main de son épouse, la main de ma mère, lorsqu'elle est décédée. Et le lendemain, il y avait donc des obsèques qui étaient organisées, des obsèques, si on peut s'appeler ainsi. Il y avait une petite voiture avec le cercueil. Derrière la voiture, il y avait un cocher avec un cheval. Derrière la voiture, il y avait un rabbin, mon père et moi, à trois. Et on est allé comme ça au cimetière. C'était très, très triste pour moi. J'étais complètement effondré, je m'en souviens de ça. Et c'était donc les obsèques de ma mère. Et mon père m'a dit, maintenant, tu ne rentres plus au camp, parce que j'avais une autorisation pour sortir, juste pour assister aux obsèques. Il fallait que je retourne au camp. Mon père m'a dit, tu ne retournes pas au camp, tu viens avec moi, on va aller à Marseille. Et on est allé à la gare, mon père avait acheté la veille des billets, et à la gare, mon père m'a dit, il ne faut pas que nous restons visibles, parce qu'il y a des policiers qui vont venir inspecter les gens et demander les papiers. Et comme bien évidemment je n'en avais pas, on s'est caché et effectivement on a vu ensuite arriver des policiers qui se sont mis à l'entrée de la gare et qui ont vérifié les gens. Mais nous, évidemment, on était déjà là, on ne nous a rien demandé. Donc on est parti à Marseille. Mon père avait eu la précaution, il avait acheté quelque part, je ne sais pas où, 2-3 livres qui avait l'air d'être des livres d'école, ce qui a fait que j'ai pu m'asseoir dans un compartiment avec des livres et faire semblant de lire. À l'époque, je ne lisais pratiquement pas le français, mais enfin, je faisais semblant. Mon père, lui, il faisait semblant de dormir, parce que, évidemment, moi, je parlais pratiquement pas français. Mon père, il parlait un peu français, mais avec un accent horrible qui dénonçait immédiatement l'étranger. Donc, nous, on ne bougeait pas. Et on a pu arriver comme ça à Marseille, et voilà.
Et comment vous avez échappé au contrôle d'identité à Marseille ?
Voilà. Mon père, il savait que à Marseille, lors de l'arrivée du train, les sorties de la gare étaient occupées par des policiers qui vérifiaient les papiers d'identité de tous les gens qui sortaient. Donc, il a aperçu un petit convoi de chariots avec des bagages qui circulaient. Avec lui, on s'est mis à côté de ce petit convoi pour qu'on ne nous voie pas. Or, ce petit convoi est arrivé dans un endroit où on stockait des bagages. Alors, on est entré là-dedans et quelqu'un nous a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Ben, on cherche la sortie. »« Ben, c'est pas là. » On nous a donc montré la sortie qui n'était évidemment pas surveillée et on a pu sortir comme si de la gare, comme si de rien n'était. Mon père était très content et moi aussi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu éviter ce contrôle.
Merci.
À Marseille, vous rencontrez Monsieur Champenois, en réalité à la tête d'un réseau de résistance. Comment vous retrouvez-vous à intégrer ce réseau de résistance à son insu ?
À Marseille, j'avais été admis dans un centre d'accueil des réfugiés français, des femmes et des enfants, qui ne pouvaient pas retourner chez elles dans la région de Lille, qui était un terrain, une région considérée comme région militaire par les occupants allemands, donc ils ne pouvaient pas rentrer chez elles, ces femmes-là avec les enfants. Et un organisme qui s'appelle les Quakers américains avait organisé un séjour pour ces femmes-là, où on m'avait pris comme bonhomme à tout faire. Et un jour, avec un autre petit copain qui travaillait là aussi, on nous a dit, vous allez à la gare chercher une valise. Donc on a pris un petit chariot et on est parti à la gare de Marseille pour chercher la valise. La valise, en fin de compte, c'était une grande malle en osier, assez lourde, qu'on a mis sur notre chariot, on est sorti. Et quelques pas après, il y a deux policiers qui sont venus nous voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce qu'évidemment, on cherchait surtout le marché noir. Comme il n'y avait pas beaucoup à manger à Marseille, il y avait le marché noir qui était florissant. Et la police, évidemment, cherchait à arrêter les gens qui faisaient du marché noir. Donc, mon copain, qui était devenu tout pâle, quand on lui a demandé ça, il dit, écoutez, je n'ai pas les clés du truc. Nous travaillons pour un centre de réfugiés français à Marseille, organisé par les Quakers américains. Et je pense qu'il doit y avoir là-dedans des draps et des serviettes qui nous ont été envoyés de Lyon pour ces gens-là. Alors, les deux policiers ont dit, bon, haussez les épaules, ils sont partis. Alors, mon copain m'a dit, maintenant, dépêche-toi, vite, vite, vite. On a poussé le chariot, il y avait des pavés mal arrangés, ça chaoté. En fin de compte, il y a le couvercle de la malle qui s'est ouverte, et il y a des papiers qui sont tombés par terre. Quand j'ai vu ces papiers-là, j'ai regardé, c'était marqué « combat », résistance, libération, c'était des tracts, évidemment, produits par des organismes gaullistes, forcément, pour la résistance. Donc, j'ai ramassé ça avec mon copain. Mon copain m'a dit, tu ne dis rien, allez, dépêche-toi. Alors, je dis, écoute, maintenant, je veux savoir ce qui se passe. Là, c'est donc de la résistance, qu'est-ce que vous faites? Je peux rien te dire. Je dis, écoute, tu m'as dit quelque chose. J'ai dit à M. Champenois, qui était le patron du centre d'accueil, je lui dis ce qui s'est passé. Ah, il me dit, non, surtout, tu n'as rien. Voilà ce qui se passe. Avec M. Champenois, on a organisé un petit groupe de résistance dont le travail et le but est de renseigner la population sur les méfaits de la collaboration vichysoise. Donc, on travaille pour des gaullistes, pour de la résistance. Alors, je lui dis, bon, écoute, maintenant, je vais travailler avec toi. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, j'étais un gosse. J'avais 16 ans, mais à 16 ans, on était un gosse encore, à l'époque. Aujourd'hui, non, mais à l'époque, on était un enfant. Donc, je voulais travailler avec lui. Alors, j'ai commencé à travailler avec mon copain pour distribuer des tracts, distribuer le journal de la résistance, tracé de V de la Victoire avec la Croix de Lorraine la nuit sur des bâtiments publics, mais à l'insu, bien évidemment, de M. Champenois, qui n'aurait pas accepté qu'un étranger, réfugié, travaille dans son groupe, parce qu'au cas où j'aurais été arrêté, ça aurait été très très grave pour son organisation naissante. Voilà, c'est comme ça que je suis entré dans la résistance, où je suis quand même resté pendant près d'un an et demi.
Vous aviez presque notre âge, donc, quand vous meniez tous ces actes de résistance. Aviez-vous conscience de leur importance? Dans votre livre, par exemple, vous en parlez comme d'un jeu, le jeu du gendarme et du voleur.
Dans mon esprit, c'était bien ça, dans mon esprit. Évidemment, en participant à des actions de résistance, pour moi, c'était participer à une résistance vis-à-vis du gouvernement vichysois qui m'avait interné, qui était la cause de la mort de ma mère. C'était donc ça, c'était de faire quelque chose contre ce genre-là. Et bien évidemment, j'étais conscient que nous étions des gaullistes, c'est-à-dire que nous travaillions pour l'organisation des résistances chapeautée par le général de Gaulle. Donc c'était important pour moi, c'était important pour moi. Mais comme je l'ai dit dans mon livre que vous avez cité, en fin de compte, jeune comme j'étais, pour moi c'était un peu le jeu du chat et de la souris, le jeu du gendarme et du voleur. Quand nous distribuions des tracts dans des bâtiments, à l'aveugle évidemment, on demandait l'ouverture de la porte, on entrait, on mettait nos tracts dans des boîtes aux lettres, et quand nous demandait On nous demandait qui cherchez-vous. On disait un nom quelconque. Et la concierge nous répondait, mais il habite Pessy. Ah bon, on a dû se tromper d'adresse. C'est pas fond de sortie. C'était ça, c'est ça qui nous faisait. Souvent aussi, il y avait un qui rentrait, l'autre qui restait dehors pour voir s'il n'y avait pas du danger. Et on faisait ça un peu comme, je dirais presque comme un jeu. Comme on avait du temps libre les après-midi à Marseille, mais pratiquement tous les jours, on faisait ça dans des quartiers différents et toujours en surveillant qu'on ne nous suit pas. Voilà.
Merci.
À partir de l'été 1942 et la mise en place de la solution finale, le régime de Vichy collabore pleinement avec l'occupant nazi. Les accords entre René Bousquet, secrétaire général de la police, et le SS Karl Auberg aboutissent à la grande rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. Celle-ci est suivie, un mois plus tard, de rafles dans toute la zone sud, à Nice, Marseille, Toulouse. Vous êtes vous-même arrêté le 26 août 1942 à Marseille et emmené au camp des Milles, qui fait office de camp de transit vers Drancy, puis à Rivesaltes. Les gendarmes vous font alors embarquer dans un wagon à bestiaux avec 60 de vos camarades. Le train part et c'est là que vous décidez de vous échapper. Pouvez-vous nous raconter le déroulement de votre évasion ?
Quand on nous a poussés dans les wagons, nous ne savions évidemment pas quelle était la destination. On savait que le train allait vers le nord, donc vers la zone occupée, mais on ne savait rien d'autre. Il est évident que à cette époque-là, donc en août-septembre 1942, il était absolument inconcevable qu'on puisse imaginer un camp d'extermination. C'était hors de pensée d'un homme du XXe siècle. On ne pouvait pas imaginer ça. Donc on ne savait pas où on allait, mais on nous forçait à entrer dans les wagons. Avant de pénétrer dans les wagons, on avait séparé les hommes et les femmes. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Donc ça occasionnait bien évidemment des cris, des paniques, c'était très très difficile à vivre, des femmes qui se roulaient par terre, enfin c'était très très dur. Donc on nous a poussés dans des wagons, on a fermé les wagons, nous étions à peu près une soixantaine de personnes, alors que c'était prévu pour 40. Donc difficile de s'asseoir, difficile de se coucher bien sûr, et il commençait à faire chaud. Il y avait une seule ouverture qui n'était pas fermée, et il y avait deux barres horizontales. J'ai réussi à m'approcher de cette ouverture, et j'ai passé ma tête entre les deux barreaux pour prendre un peu plus d'air, respirer plus facilement, et j'ai regardé dehors. Il y avait un paysage, je dirais presque idyllique, il faisait beau, il y avait de la verdure partout, on était en pleine nature évidemment, et les trains passaient. Bon. Et à ce moment-là, quelqu'un derrière moi m'a tapé sur l'épaule, et il a crié, parce qu'évidemment il y avait des bruits, il m'a dit, tu sais, quand la tête passe, le corps passe. Alors j'ai ressorti ma tête, je dis, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il m'a dit, absolument. Oh là là, j'ai fait ni un ni deux, j'ai pas réfléchi, j'ai fait un rétablissement, j'ai passé mes jambes d'abord, le torse, il a accroché un peu, on m'a poussé, la tête est passée aussi, et je suis resté accroché sur une des deux barres à l'extérieur du wagon. Et là, j'ai vu que il y avait bien évidemment les poteaux télégraphiques qui passaient toutes les quelques secondes. Le train est roulé à une vitesse pas très élevée, peut-être à 80 km/h, je ne sais pas combien. Et donc il fallait réfléchir, si je m'élance, il ne faut pas que je tombe sur un poteau, sinon c'est la catastrophe. Et il ne faut pas que je tombe sur les ballasts, le ballast qui est en pierre évidemment. Alors j'ai réfléchi à tout ça rapidement. Ça passait dans ma tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut se lancer. Et puis il faut se lancer, mais où? Ben, faut regarder où il y a un peu de verdure, un peu de que tu ne tombes pas sur un obstacle. Et je me suis dit, je me suis toujours souvenu de ça dans ma petite tête, je me suis dit, tu as toujours été premier en gymnastique. Maintenant, il va falloir que tu montres ce que tu sais faire. J'étais premier en gymnastique, mais pas en latin. Mais le latin, ça ne m'aurait pas beaucoup aidé pour me sauver. Donc, à un moment donné, je me suis arc-bouté contre le paroi. J'ai vu que arrivait une zone de verdure avec un fossé. Et je me suis dit, il faut que tu sautes là-dedans. Je me suis poussé contre les wagons et je fais un vol plané qui s'est terminé par un roulé-boulé dans le fossé. J'avais cru entendre un coup de feu, mais c'était probablement mon imagination. Je ne sais pas si on a tiré sur moi, je n'en sais rien. Dans le fossé, le train, j'ai entendu que le dernier wagon était passé, je me suis levé, j'ai commencé à me tâter à droite, à gauche, rien de cassé, pas mal, nulle part. J'avais quelques écorchures parce qu'il y avait des ronces dans le truc. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis éloigné aussi vite que j'ai pu de la voie ferrée. Je courais droit devant moi et j'ai trouvé un petit bois où je me suis caché. Et j'ai vu un petit ruisseau qui passait par là, où j'ai pu me désaltérer. J'ai pu laver mes bras qui étaient un peu ensanglantés par les écorchures. Et j'étais là, j'attendais la suite. Il faut que maintenant, réfléchis, qu'est-ce que tu dois faire?
Évadé du train, vous regagnez Marseille et retrouvez Monsieur Champenois. Vous êtes désormais un fugitif. Que vous propose-t-il de faire à ce moment-là?
On a envisagé évidemment différentes possibilités. Pour moi qui n'avais plus de papier, bien évidemment, qui était recherché. Alors j'ai dit, je savais qu'il y avait des gens qui essayaient d'aller en Suisse ou qui essayaient d'aller en Espagne par les Pyrénées. Monsieur Champenois m'a dit ça, tu peux pas. Tu ne parles pas assez bien français. Dès que tu ouvres la bouche, on sait que tu es un étranger. Donc tu ne peux pas. Et bien, en plus de ça, tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas te débrouiller. Alors on fait quoi? Alors il m'a dit, il n'y avait pas de maquis de résistants dans la zone libre en France après 1942. Les maquis ne sont venus qu'après l'occupation de la zone dite libre par les Allemands après novembre 1942. Donc il n'y avait pas de maquis, donc faire quoi? Alors il m'a dit, il faut que tu ailles à la Légion. Quand j'ai entendu parler Légion étrangère, je me suis rappelé de choses que j'avais entendues raconter quand j'étais gosse. La Légion de bandits, de tueurs, de moins que rien, la Légion. Ils marchent dans le Sahara, dans le désert, ils crèvent de faim, ils crèvent de... La Légion, pas pour moi. Alors, M. Champenois m'a dit, tu sais, maintenant, c'est changé. Ce n'est plus comme dans le temps. Hein. Et puis, tu auras l'occasion de combattre les Allemands. Là, je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait, évidemment. Je ne voyais pas. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'avais compris que M. Champenois, qui était donc un chef de résistance à Marseille, savait que les Alliés avaient prévu un débarquement en Afrique du Nord. Il le savait, mais il ne pouvait évidemment pas me le dire. Donc, sachant que j'allais partir en Afrique du Nord, il m'a laissé entendre que j'allais pouvoir combattre les Allemands.
Et du coup, quel obstacle avez-vous dû surmonter pour entrer dans la Légion étrangère? Et comment avez-vous fait pour cacher vos origines autrichiennes, notamment votre accent?
C'est une bonne question. Monsieur Champenois, qui m'avait proposé d'aller à la Légion, il savait évidemment que la Légion n'avait pas le droit d'engager un Allemand ou un Italien, enfin des pays qui étaient en guerre, et surtout n'avait pas le droit d'engager un Juif, parce que le gouvernement de Vichy avait interdit à la Légion d'engager des Juifs, c'est-à-dire que les Juifs n'étaient pas considérés comme pouvant être soldats français. Oui. c'était ça. Donc on avait fait de moi un luxembourgeois. C'est-à-dire qu'on m'a donné un nom, on m'a expliqué un petit peu d'où je sortais, quelle ville, c'était Esch-sur-Alzette, je m'en rappelais toujours. On m'a dit, voilà, Esch-sur-Alzette, si on te pose la question, tu dis, voilà, mon papa, il tient la pharmacie dans la grande rue. On m'avait donné un nom de rue, mais ça, je m'en rappelais plus. Et voilà. Et puis, donc, on m'a appris un petit peu à me comporter en luxembourgeois.
Dans la Légion, vous avez participé à la libération de la France, notamment au débarquement de Provence. Vous êtes donc rentré en Autriche aux côtés des Alliés, les armes à la main. Avez-vous nourri un sentiment de revanche, voire même de vengeance à ce moment-là ?
Oui, donc effectivement, j'ai participé au débarquement en Provence, j'ai participé à la progression de l'armée française dans le sud-est de la France. J'ai participé au combat en Alsace, où nous avons eu beaucoup, beaucoup de pertes, à la prise de Colmar notamment. Ensuite, la traversée du Rhin, des combats en Allemagne. Et finalement, on a franchi ce qui était l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, dans une ville qui s'appelle Bludenz. Et on est entré en Autriche. Entré en Autriche, on a été engagé dans la nuit dans un endroit qui s'appelle. Dans un endroit dont je ne me souviens pas du nom, mais je sais que c'était près de l'entrée du tunnel ferroviaire de l'Arlberg, qui est un endroit assez connu. Donc on a été engagé là-bas et c'est là que j'ai entendu. La sonnerie du clairon de cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ça veut dire la guerre est finie. Et j'étais donc en Autriche le 8 mai 1945 avec un fusil dans la main dans le pays qui m'avait foutu à la porte avec un coup de pied dans le derrière parce que j'étais de la race inférieure et là j'étais parmi les vainqueurs. J'étais parmi les vainqueurs du national-socialisme. On n'avait pas tellement l'impression. L'idée pour moi, c'était pas que j'avais vaincu les Allemands. Pour moi, j'avais vaincu les nationaux-socialistes. C'était ça.
Sur la couverture de votre livre, on peut lire la phrase suivante : Français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Pourriez-vous nous éclairer sur le sens de cette phrase ?
Oui. Lors de la mise en place sous l'Arc de Triomphe, de la tombe du soldat inconnu, que vous connaissez peut-être,
oui.
Tout au moins de vue, un ancien légionnaire francophone avait fait un poème sur cet événement. Et ce poème, il s'est terminé à peu près par ces phrases. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense mêlant sa gloire épique à l'ombre du passé n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par les sangs reçus, mais par les sangs versés. Ça, c'est quelque chose que, à l'époque, à la Légion, quand j'étais à l'instruction dans les baraquements, c'était marqué sur les murs, cette phrase-là, qui sait. C'est quelque chose qui, pour un légionnaire, qui sait qu'il peut mourir au combat, comme tout soldat. C'était quelque chose qui nous avait toujours marqué. On savait que, étranger, si on meurt au combat, on est honoré pour avoir donné notre vie à la France. C'était un peu ça, cette idée-là. Et le dernier voyage, j'étais à Paris. Et là, j'ai participé. Et entre autres, nous avions. Alors, j'étais en tenue de vétéran de la Légion. Bon. Et on a eu l'occasion d'aller devant l'Arc de Triomphe, devant la tombe de soldats inconnus, et c'est moi qui ai rallumé la flamme avec l'épée. Pour moi, c'était un honneur extraordinaire de voir que je pouvais rallumer la flamme. C'est pas dans mon bouquin, parce que le bouquin, il était écrit avant. Formidable. De pouvoir, moi, étranger, né en Autriche, juif, pourchassé, persécuté, de tenir l'épée qui rallume la flamme, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Merci.